Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Donc cette semaine, on revient aux bases, tout simplement du vin, le béaba de la dégustation, simple, fun et sans prise de tête, avec Anne d'Émotion Vin, créatrice d'événements autour du vin et formatrice à l'école des vins du Languedoc, au Mas de Saporta, le siège de l'AOC du Languedoc, et avec elle, on va apprendre à lire un verre avec la méthode classique et peut-être même une autre méthode, donc l'œil, le nez et la bouche. Alors arôme, tanin, sensation, vocabulaire, comment progresser vite tout seul, que tu sois curieux à la maison ou un pro derrière un comptoir. Allez, on se sert avec modération et on déguste. Alors bonjour Anne.
Bonjour Willy.
Comment tu vas?
Ben, ça va très bien, merci, et toi?
Eh ben, merci en tout cas d'être avec nous en ce 18 mars.
Merci pour l'invitation.
Alors déjà avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, d'où tu viens, quel est ton cursus, comment tu es arrivé au vin?
Bien sûr. Alors, du coup, moi, je viens de région parisienne. J'ai été initiée au vin très tôt, parce que, comme j'aime dire, je suis tombée dans une cuve de Mercuré, étant petite.
Le Mercuré qui est un vin de Bourgogne.
Absolument, c'est une appellation de Bourgogne. Ma mère est bourguignonne, mon père est passionné de vin. Et j'ai vraiment été initiée depuis toute petite, ça fait partie de mon éducation en fait, hein, clairement. Et un jour j'ai fait un stage, un de mes premiers stages, je l'ai fait dans un domaine viticole à Mercuré, le domaine Michel Juillot. Et là ça a été une révélation, le coup de cœur. J'aimais déjà le vin, mais là je me suis dit que c'était une vraie passion, et surtout en faire mon métier, c'était juste fantastique. Donc après je n'ai plus quitté le milieu depuis ce moment-là, et ça c'était en 2010. Donc j'ai 15 ans d'expérience derrière moi maintenant.
Ouais, et après cette révélation, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2010? Où tu as travaillé? Raconte-nous un peu.
Alors,
ton expérience.
Moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plutôt le profil commercialisation et marketing du vin. Et donc, j'ai eu beaucoup d'expérience. Bon, j'ai fait une école de commerce, hein, mais après, j'ai tout appris en fait via l'expérience. Et donc, j'ai eu énormément d'expérience dans des domaines viticoles. J'ai été caviste, j'ai fait du marketing, j'ai aussi géré un site de vente en ligne. J'ai été chef des ventes, j'ai fait du recrutement, création de cave, enfin énormément de choses jusqu'à 2018. Et ensuite, en 2019, je me suis installée à Montpellier, j'ai créé ma société Émotion Vin dans le but de recréer du lien entre le vin et le consommateur. Donc je suis très spécialisée quand même grand public, mais je fais quand même de la dégustation et de la formation pour les professionnels ou futurs professionnels également. Et j'organise des événements.
Oui, parce que tu es prof. Comment on pourrait dire prof?
Animatrice. Et prof, oui, quelque part. Parce
à
que
l'école
je fais les deux.
Des vins du Languedoc. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme formation ou initiation là-bas?
Alors, à l'école des vins du Languedoc, donc au Mas de Saporta, je dispense donc le WSET, le Wine and Spirit Education Trust. Donc ça, c'est la partie pro. Donc c'est un diplôme professionnalisant. Et ensuite, j'anime énormément de dégustations pour le grand public. Donc des initiations à la dégustation, des accords mets vins type vin et chocolat, vin et fromage, et de la dégustation intuitive, où j'ai été formée aux côtés de Franck Thomas.
Voilà. Meilleur sommelier de France et d'Europe 2000.
Tout à fait.
Et donc du coup, deux types de dégustation, on n'y reviendra pas par la suite parce qu'on va être dans le béaba classique, mais il y a la méthode analytique.
Voilà, qui est la méthode classique.
Le nez, la bouche, mm-hmm. Les méthodes classiques où on va tout simplement noter la puissance des tanins, le corps, la longueur, et la méthode intuitive. En 30 secondes, qu'est-ce que c'est?
La méthode intuitive, alors c'est très complémentaire, et c'est une approche où on n'est pas du tout dans le jugement, on n'a pas besoin de s'y connaître, on n'a pas besoin d'avoir de termes techniques, on est uniquement dans le ressenti. Donc tout se fait à l'aveugle, je mets un bandeau sur les yeux, verre noir, bouteille avec la chaussette, et l'idée c'est d'être dans le ressenti et de laisser les images venir. Donc de laisser le vin entrer en communication avec nous. Donc après ça peut être des paysages, des souvenirs, une personne, une musique, une couleur, n'importe. Et c'est vraiment génial comme pratique, je recommande.
Ok, bah merci en tout cas, c'est une belle transition. Pour toi, du coup, bien déguster, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, bien déguster, déjà, c'est avant tout prendre du plaisir. Je pense qu'on a tendance à pas mal se prendre la tête un peu, si je peux dire ça comme ça, sur la dégustation, ce qui fait que beaucoup de gens, en fait, ont peur de s'exprimer, ont peur de dire ce qu'ils ressentent. Moi, j'entends énormément de clients me dire « Ah non, mais moi, j'ai pas les mots,
ouais, c'est quoi les blocages classiques ?»
Ben, les blocages classiques, ça va être de pas savoir mettre les mots sur ce qu'on ressent. Alors, ils vont dire « j'aime pas », mais ils vont pas savoir exprimer pourquoi. Les arômes, alors ça, les arômes, c'est toujours très compliqué parce qu'ils se mettent la pression pour trouver les arômes. Et s'ils ne trouvent pas, ils vont résumer à « je n'ai pas de nez, je ne sens rien ». Et non, c'est faux. Ça, c'est une question de pratique. Il faut pratiquer, en fait. Et aussi, prendre un peu confiance en soi et écouter quand même, malgré tout, son instinct. Parce qu'il y a plein de choses où, souvent, ils ont une première impression qui arrive, ils ne l'écoutent pas, et après, quand on en discute, « Ah oui, mais ça, je l'avais senti, mais je n'ai pas osé dire. » Il faut s'écouter, il faut se faire confiance.
Oui, il faut se lâcher un peu.
Oui, oui, c'est...
Et avec Mathieu Chastain, on avait fait une émission, il y a quelques semaines, sur les préjugés et les idées reçues. Et effectivement, en fait, le vin, c'est bourré de préjugés. Tu nous le confirmes.
Absolument.
Qu'est-ce que tu entends, par exemple, toi, comme grandes idées reçues à chaque fois que tu donnes ces initiations ?
Alors, il y a le côté, très, très élitiste, très compliqué du vin, alors que non, en fait, le vin, c'est pas si compliqué que ça. Le vin, c'est avant tout un produit du terroir, un produit de plaisir, de convivialité,
produit
de partage.
Paysan, ouais.
Je veux dire, c'est pas si compliqué. On n'est pas obligé de s'y connaître. En fait, c'est ça, c'est que le consommateur a le sentiment qu'il faut absolument s'y connaître pour pouvoir apprécier un vin et le déguster. Et c'est faux, en fait.
Alors, si tu devais, du coup, donner trois réflexes tout simples pour progresser vite, qu'est-ce que tu ferais ?
Alors, déjà, je dirais déguster, c'est tout bête, hein, mais déguster à l'aveugle. Ne pas voir la bouteille.
Ouais, ça influence beaucoup le...
Énormément. Donc, si on veut déjà commencer à apprendre à déguster de manière objective, c'est intéressant de s'habituer à déguster à l'aveugle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour le nez, parce que c'est un des plus gros blocages, il suffit... On a tout à la maison. On a tout dans l'environnement. Tout ce qui est épices, café à la maison, les fruits, les fleurs, les plantes dans un parc, dans le jardin, etc.
Ouais, les feuilles mortes.
Ouais, tout. En fait, il faut réhabituer ses sens à prendre le temps d'analyser ce qu'il y a autour de nous. Je pense que, typiquement, il y a énormément de gens qui sentent et qui mangent des choses sans faire attention à ce qu'ils sentent ou ce qu'ils mangent. Parce qu'on ne prend plus le temps. Il faut reprendre le temps. Ça prend quelques secondes.
Donc, premier réflexe, on essaie de déguster au maximum à l'aveugle pour ne pas se faire influencer. Deuxième, on essaye de s'ouvrir un peu les sens en sentant tout ce qu'on a dans la cuisine, dans son jardin, quand on sort dans le marché.
Et à être dans le moment présent. Quand on sent et quand on mange, même manger juste, et dans la dégustation c'est pareil, être dans le moment présent pour être focus sur ce qu'on fait. Et si on le fait ça au quotidien ou régulièrement, avec le vin, du coup, ça sera pareil. Ça fonctionnera très bien aussi. C'est le fait d'avoir l'esprit ailleurs aussi qui n'aide pas à progresser.
Bon, on rappelle à nos auditrices, auditeurs, que l'alcool est à boire avec modération.
Toujours.
Parce que c'est dangereux pour la santé. Donc, on revient à la fameuse méthode analytique, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. L'œil, le nez et la bouche. On va commencer par l'œil. En fait, c'est quoi l'œil dans le vin ? On parle souvent de lire la robe. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ?
Alors, finalement, c'est le premier contact que l'on a avec le vin. C'est super important dans le sens où on prend déjà du plaisir juste en regardant le vin. Donc, c'est le premier sens qui est en éveil. Si on ne prend pas en compte le fait que la main touche le verre, donc on pourrait dire le deuxième, mais disons que le vrai contact avec le vin, le premier, c'est celui-ci. On voit la robe. La robe, c'est quoi ? C'est la brillance, c'est la couleur, c'est l'intensité, ce sont les larmes. Et tout ça, déjà, c'est une première impression. Et juste avec la robe, il y a des moments où on a très envie d'y aller et d'autres moments où, potentiellement, pour des raisons X ou Y, on a un peu moins envie d'y aller.
Donc, on parle souvent, de robe, notamment avec les larmes. C'est quoi les larmes ? C'est ce qui coule sur la paroi, certes, mais quelles indications, finalement ?
Les larmes, c'est lié à la viscosité,
du
vin. Et la viscosité, ça donne des indications sur le degré d'alcool et ou de sucre, puisque le sucre et l'alcool sont très étroitement liés, évidemment. Donc plus il y a de larmes, c'est-à-dire plus les larmes sont lourdes et ont du mal à descendre,
à couler,
plus il y aura d'alcool ou de sucre dans le vin.
Ok. Et au niveau couleur, alors, par exemple, pour un vin blanc, il y a différentes couleurs. Quelles sont-elles ?
Alors, les couleurs, vous allez avoir, par exemple, alors ça dépend beaucoup des climats et des cépages, mais dans les grandes lignes, vous allez avoir le côté jaune-vert, reflet vert, donc ce qui est signe de vin plutôt jeune, puis jaune paille, jaune citron, le côté reflet doré, et ça peut aller jusqu'à l'ambré pour les vins un peu plus vieux ou élevés dans un milieu oxydatif.
Donc, parce que par exemple, on parle de Bourgogne, il y a beaucoup de Bourgogne qui ont vraiment une couleur très, très brillante, très jaune. Qu'est-ce que ça nous indique sur ce vin ?
Alors, ça peut être aussi lié à la façon dont il a été vinifié. Notamment, s'il y a un élevage en fût, les bourguignons sont très friands de l'élevage en fût, ou même de la vinification en fût de chêne, ça va apporter une micro-oxygénation qui va avoir un impact sur la couleur du vin, effectivement.
Ok. Donc, par exemple, un élevage en fût de chêne va donner cette couleur très jaune, généralement.
Ça va intensifier cette couleur-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on prend deux vins exactement les mêmes, même assemblage, même terroir, un élevé en cuve inox et un élevé en fût de chêne, effectivement, ils n'auront pas la même couleur.
D'accord. Et donc, niveau nez, qu'apporterait justement un élevage en fût sur des lits, finalement ?
Alors, le côté fût et lit, donc petit rappel, les lits, ce sont les levures mortes.
Qui sont au fond de la barrique.
Absolument, qu'on va mélanger en fait au jus, hein, donc c'est du bâtonnage pour le terme technique. Et en fait, que ce soit l'élevage en fût ou l'élevage sur lit, ce sont des techniques qui apportent de la gourmandise et qui impactent le vin aromatiquement. Donc par exemple,
on parle de brioche ou de...
Alors voilà, pour le côté exactement, fumé, exactement, le côté pain grillé, brioche pour les lits, et boisé, c'est souvent ce côté un peu vanillé, pâtissier, donc ça apporte beaucoup de gourmandise et de rondeur aussi, et de gras.
Wow, super transition pour la partie nez. Alors, comment on apprend du coup les odeurs, à les reconnaître? Quels sont tes conseils, toi, quand tu fais des formations?
En gros, je pense qu'il faut faire étape par étape. On a une liste d'arômes qui est assez énorme, avec des familles. Si on a à peu près ces arômes-là en tête, pour s'aider, quand on déguste un vin, on peut faire la technique de l'entonnoir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc en fait, par exemple, vous avez plusieurs familles, notamment les fruits, les fleurs, les épices, les choses comme ça. Voilà. Donc, vous faites par élimination ce vin-là. Est-ce que je retrouve des fruits? Est-ce que je retrouve des épices? Est-ce que je retrouve des fleurs?
Par exemple, dans les fruits verts, la pomme, la poire...
Par exemple. Mais avant d'aller là, on peut commencer. Vraiment, c'est le principe de l'entonnoir. Donc, on dit, OK, il y a des fruits. Toi, tu me dis, il y a le côté pomme-poire. Il y a des fruits, donc. Ensuite, dans la catégorie des fruits, il va y avoir les fruits exotiques, les fruits à chair blanche, les fruits à noyaux, les fruits rouges, les fruits noirs. Pareil, par élimination. OK, donc plutôt fruits à chair blanche. Donc, pomme-poire. Et ensuite, dans les fruits à chair blanche, on a quoi ? Pomme-poire. Est-ce qu'on y est ? Oui. Donc, on peut faire comme ça. Mais ça demande déjà quand même au préalable d'avoir un nez qui reconnaît quand même les arômes.
Éduqué, ouais.
Voilà. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi-même, je le fais. C'est de s'entraîner avec ce qu'on a à la maison. Il n'y a pas besoin d'acheter des tas de choses ou quoi. Juste avec tous les arômes qu'on a autour de nous, en permanence, ça suffit.
Ok, intéressant. Et on parle souvent aussi d'arômes primaires, secondaires, tertiaires. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les arômes primaires, c'est ce qu'on appelle les arômes variétaux. Donc, ce sont les arômes des cépages, en quelque sorte. D'accord ? Par exemple, je vais prendre le Sauvignon. Le Sauvignon, il a des arômes primaires variétaux très marqués. Le côté agrume, buis, asperge... Pipi de chat, diraient certains.
Oui, très herbe fraîche.
Absolument.
Très frais, ouais.
Voilà, donc ça, c'est typiquement ce type d'arôme-là. Ensuite, secondaire, ce sont tous les arômes qui vont être liés à la vinification. Donc justement, on parlait d'élevage sur lit,
ouais,
par exemple. Donc ça peut
la
être...
La façon dont le vin a été fait, oui. Avec quel type de contenant.
Absolument, et certains arômes fermentaires également. Mais là, on est vraiment sur le côté... on va dire technique. C'est-à-dire que c'est des arômes qui sont apportés par la vinification.
Donc, par exemple, brioche, par exemple. Pain grillé,
voilà.
Et après, boisé.
Tout à fait. Et tertiaire, c'est lié au vieillissement. Donc, au vieillissement du vin.
D'accord.
Quel que soit son contenant, d'ailleurs. Ça peut être en bouteille, ça peut être... Mais souvent, les arômes tertiaires sont associés à des arômes un peu plus vieux. Sous-bois, champignons, un boisé un peu évolué, donc ce côté cèdre un peu, etc.
Ce que je dis toujours, moi aussi, puisque j'ai beaucoup donné d'initiation comme toi à l'École des Vins et à Paris dans d'autres instituts, si on veut vite voir un arôme tertiaire, on se dirige vers, par exemple, des Banyuls ou des vins élevés en Dame Jeanne à l'air libre,
oui.
Enfin, entre guillemets, à la lumière, et on voit directement l'impact d'un arôme tertiaire.
Absolument. Alors là, c'est encore un profil différent, c'est ce qu'on appelle les vins oxydatifs.
Ouais.
Parce que la plupart des vins sont produits en milieu réductif, donc sans contact
sans
avec
oxygène,
l'oxygène,
ouais.
Voilà. Et effectivement, dans les vins doux naturels de chez nous et même partout, à Porto, y a une façon d'élever le vin qui est au contact de l'oxygène. Et donc, ça crée des vins oxydatifs. Et c'est des vins qui sont élevés pendant des années. Et c'est assez incroyable parce qu'effectivement, ça donne ce côté vieux vin, mais c'est fou, quoi. On a le côté noix, fruits confits, café, pruneaux. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
Bon, on rappelle que on est en après-midi, qu'on peut pas trop déguster à cette heure-là, mais ça donne envie. mais quand quelqu'un, quand tu abordes cette partie olfactive et que la personne en face te dit « Ah, mais je sens rien, je comprends pas », tu lui réponds quoi, alors, concrètement ?
Alors, j'essaie de le rassurer en lui disant que non, il ne sent pas rien, et souvent je creuse un peu. Par exemple, il y a des choses que l'on sent, notamment si le vin est plutôt acide, parce que l'acidité se sent, ou plutôt gourmand. Donc je pose des questions plus simples dans ce sens-là, et généralement, il sent, la personne sent. Donc en fait, je pense que c'est plus un blocage, une croyance limitante, c'est un blocage.
Ok. Donc tu parles d'acidité, on arrive à la troisième étape, la bouche, donc le vin en bouche, au contact de notre salive, de nos papilles, finalement. Qu'est-ce qu'on note ? Qu'est-ce qu'on analyse dans la bouche ?
Alors, en bouche, on analyse pas mal de choses, et notamment déjà les cinq saveurs. Donc les cinq saveurs, on les rappelle, c'est... Bon, tu nous les rappeler, Willy ?
Je sais pas, non, je rigole. Sucré, salé... amer, acide et l'umami.
Absolument, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le nez détecte les arômes et la bouche détecte les saveurs. Donc si on sent des arômes en bouche, c'est grâce à la rétro-olfaction.
Oui, avec le nez, le contact avec
Absolument.
Le nez.
Et en bouche, donc on sent, on analyse les saveurs, on analyse également le niveau de tanin.
Oui,
on analyse
les tanins.
Également la texture, le toucher du vin. Est-ce que le vin est plutôt
gras.
Exactement, okay. Soyeux, gras, ou au contraire,
plutôt
frais. Et tout ça, on le sent en bouche. Si on s'attarde un peu, qu'on prend le temps, le vin a énormément de choses à dévoiler.
Et les tanins, alors, Anne, une petite définition pour nos auditeurs et auditrices.
Alors, les tanins, ce sont des polyphénols qui se trouvent dans la peau du raisin. Donc, naturellement, on en a pas ou très peu dans le blanc, et on en a surtout dans le rouge. On en a aussi dans les vins oranges, puisque le vin orange est un vin blanc de macération. Ça veut dire que c'est un vin blanc qui est vinifié comme un rouge. Mais au-delà de ça, donc, les tanins, on les trouve surtout dans les vins rouges, et ça assèche, en fait. Ça va assécher. On le sent hein, en bouche. C'est vous avez vraiment cette sensation de manque de salive une fois que vous avez craché ou avalé le vin. Et en fait, on analyse la qualité des tanins. C'est-à-dire que vous avez des tanins soyeux, des tanins fondus, des tanins plus secs, des tanins... Voilà.
Des tanins plus bruts.
Absolument. Donc ça, on analyse aussi la qualité des tanins. C'est important.
Et en analysant justement ces tanins, on peut voir aussi que généralement, quand ils sont bien bruts, bien présents en bouche, on peut se dire que couplé avec une acidité forte, c'est un vin qui peut vieillir. C'est
Absolument.
Ce que je dis moi, à mes élèves.
Absolument. Et ça, c'est important parce que finalement, en fait, ce qui permet à un vin de vieillir, c'est beaucoup de choses, mais principalement l'acidité. Les tanins renforcent le potentiel de garde, mais ne sont pas indispensables, puisqu'il y a des blancs qui vieillissent très bien et qui n'ont pas de tanins.
Oui, et puis donc l'acidité est un paramètre qu'on note en bouche, donc acidité faible, moyenne ou puissante. L'acidité, pour résumer, c'est on prend un jus de citron dans la bouche et on voit tout de suite ce que c'est.
Absolument.
Et dans le vin, comment ça se matérialise finalement ?
Ça fait saliver.
Ouais.
Et après, en fait, alors on le sent sur le côté de la langue, on le sent un peu partout, hein, parce que finalement, nos capteurs, les capteurs, on en a dans toute la bouche, on le sent au niveau des gencives également. Et c'est vrai que ça fait saliver. Ça fait saliver et c'est plutôt agréable.
C'est vrai que ça fait plutôt saliver. Et puis dans le sud de la France, à côté de chez nous, à Montpellier, il y a des blancs avec de l'acidité. T'as des idées d'appellation, par exemple ?
Alors, bah, le plus connu, l'appellation la plus connue, on va dire, qui a la plus grosse acidité, ça va être le Picpoul de Pinay.
Oui, à côté de Sète, ouais. L'étanto.
Absolument. Mais en fait, ce qui est important, l'acidité, ce n'est pas juste le fait de faire saliver. L'acidité a un pouvoir énorme, c'est-à-dire que ça allège le vin. Ça le rend plus digeste, ouais, ça plus le rafraîchit, buvable. Ça augmente sa buvabilité. Si vous avez, par exemple, dans un vin sucré, qui est plutôt lourd et riche au départ, vous lui ajoutez naturellement, hein, je veux dire, de l'acidité, il paraîtra moins sucré et beaucoup plus élégant. L'acidité allège, équilibre finalement la matière et c'est indispensable dans le vin. Et on a de... On le voit d'ailleurs, hein, je veux dire, les vins qui manquent d'acidité, qui sont un peu riches, un peu bodybuildés...
On s'en lasse.
C'est un peu lourd.
On a donc ça, après quelques pratiques de cette méthode que nous venons de vous décrire avec Anne, l'œil, le nez et la bouche, on parlera effectivement, on pourrait parler d'équilibre, ce sera l'occasion de se revoir pour une émission, mais c'est fondamental pour la qualité d'un vin.
Absolument.
Alors, on va faire un mini protocole ensemble, déguster à la maison. Donc finalement, est-ce que tu peux nous conseiller des choses qu'on doit quand même respecter, je ne sais pas, la température, le vieillissement, l'ordre des vins par exemple? Est-ce que tu, voilà, tu as des conseils, 2-3 conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent?
Alors la température indispensable. Le rouge trop froid, ça casse les arômes, et le blanc trop chaud, vous prenez pas de plaisir. Donc évidemment, c'est important. Je conseille quand même de servir toujours un peu en dessous de la température idéale, parce qu'en fait, le vin se réchauffe.
C'est-à-dire que si c'est marqué sur la bouteille où le caviste nous dit bah, « ce rouge, il est à boire à 18 degrés », on le sert à
15-16.
Donc on le met peut-être une petite demi-heure au frigo, histoire
ça
de...
Ça peut, ça peut. Okay. Si, oui,
c'est absolument. Pas dangereux pour le vin.
Non, non, du tout, sauf si en plus il était dans une cave, là c'est l'idéal. Mais effectivement, vaut mieux toujours servir un petit peu en dessous de la température idéale. Et en gros, on dit pour les blancs, alors ça va être vraiment en gros, hein, mais les blancs rosés, bulles par exemple, on va être sur du, allez, on va dire 8-13. Plus le vin est léger, plus vous pouvez le servir frais, plus il est riche et complexe, moins il faut le servir frais. Ça fonctionne pareil pour les rouges. Vous pouvez tabler entre, allez, disons, 14 et 18. Plus c'est léger, plus vous pouvez aller vers le 14, plus c'est structuré et complexe, et plus vous pouvez aller vers le 16-18.
Ok. Et donc, pour terminer, le dernier conseil sur l'ordre des vins. C'est vrai qu'on a un bon repas prévu en famille ou avec des amis, je sais pas, le samedi soir, avec l'apéro, entrée, plat, dessert. Qu'est-ce que tu conseilles comme ordre, finalement?
Alors, moi, je conseille toujours de commencer avec un vin qui, justement, a une forte acidité.
Un pastis qui tabasse, peut-être?
Non, je rigole. C'est ça. Ou un gros sauterne. Non, mais commencer avec un vin qui a beaucoup d'acidité, voire des bulles, pour réveiller les papilles et ne pas les saturer surtout.
Ouais.
Et ensuite, évidemment, c'est en fonction du repas. Vous allez faire des accords mets-vins, donc ça va être en fonction du repas. Mais sinon, de manière générale, quand on fait une dégustation, on fait finalement du plus léger au plus structuré. Surtout quand on n'a pas l'habitude de déguster,
grosso
je
modo,
pense
ouais.
que c'est mieux.
Plus léger au plus,
plus
puissant.
Structure, voilà, okay.
Et ben super conseil de fin. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez retrouver Anne à l'école des vins du Languedoc. En tant qu'animatrice et formatrice, mais également pour son prochain salon Vindel, et on en parle tout de suite dans la chronique Actu.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
Alors le salon Vindel est deuxième édition, samedi
28 mars.
28 mars prochain, donc à la fin de la semaine pour tout le monde. Bah raconte-nous, mais c'est quoi ce salon? Alors c'est la deuxième édition.
C'est la deuxième édition, absolument. Donc c'est le salon Vindel qui va avoir lieu au château de Flaugergue, donc à Montpellier, du côté du Zénith. Et en fait c'est un salon qui regroupe 30 vigneronnes de toute la France, majoritairement de chez nous, mais quand même de toute la France, parce qu'on a presque 10 régions représentées. Donc c'est un salon pour le grand public. Donc en fait, vous...
Toute la journée. Hein.
Toute la journée. Donc de 10h à 19h, avec dernière entrée à 18h, vous avez le salon. Donc là, vous dégustez, vous payez une entrée. Vous avez un verre et un carnet de dégustation. Et donc là, vous avez dégustation illimitée. Et le but, évidemment, c'est d'acheter les vins des vigneronnes pour vous confectionner votre cave. On a même un service de livraison sur place pour ceux qui viendraient à pied et à vélo. Et ensuite, le soir, à 19h, on propose une soirée bar à vin. Exactement. Donc là, c'est un énorme bar à vin avec
un ciel ouvert, en
une
plus.
Trentaine. Oui, on est dans la cour là parce que le salon est en intérieur et tout ce qui est nourriture Et soirée bar à vin, c'est dans la cour du château de Flaugergues. Et là, en fait, on a donc un énorme bar à vin d'une trentaine de références. Tout sera consommable au verre et à la bouteille. Donc, je pense que personne n'a déjà vu un bar à vin avec autant de références au verre.
C'est complètement dingue. Parce que, raconte-nous, voilà, ces vignerons viennent d'où en France ? Fais-nous un peu saliver.
Alors, eh ben, on a l'Alsace, on a le Gers, on a la Loire avec Pouilly-Fumé, on a Beaujolais, on a Bourgogne avec Tonnerre, donc du côté de Chablis, et Montagny côté côte chalonnaise. On a la vallée du Rhône, bien sûr, avec Châteauneuf-du-Pape et d'autres vignerons côté Pont du Gard. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre encore ?
Donc plein d'odeurs et de saveurs.
On a Bordeaux aussi, enfin oui, il y a vraiment... Et évidemment, par contre, on a là, pas mal de vignerons, du Roussillon, beaucoup du Languedoc et du Gard.
Normal, on est chez nous quand même.
Bien sûr.
Bah alors, et pourquoi ce salon, qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser ça, de créer ce salon Vindel ?
Alors, en fait, il y avait déjà... Donc moi, j'organise tous mes événements avec mon acolyte qui s'appelle Christine Dardet. Et on est toutes les deux professionnelles du vin, donc. Et en fait, avant, il y avait déjà un salon mais, qui a duré quelques années, qui était à Claret.
À côté du Pic Saint-Loup,
À côté du Pic Saint-Loup, absolument. Et en fait, ce salon, un jour, s'est arrêté et des vignerons nous ont contactés en nous disant que c'était trop dommage, que ce salon était top et que est-ce qu'on ne voudrait pas reprendre le projet ? Nous, c'était une idée qu'on avait dans un coin de nos têtes, mais vu que ça existait déjà, on s'était dit, bah non, c'est pas la peine de faire un doublon. Là, du coup, forcément, on s'est dit, ok, les planètes sont alignées, c'est à nous de jouer. Et donc, on a complètement recréé l'événement. On est reparti de quasi zéro, à part les vignerons qui étaient sur l'ancien salon qui nous ont rejoints. Et on a tout recréé, mais à Montpellier, cette fois-ci. Et c'est absolument génial. C'est un moment qui est très convivial.
J'y étais l'an dernier, je confirme que c'était vraiment très, très sympa. Ouais, en plus, un projet soutenu par la métropole.
Absolument, ouais, depuis la première année. Hein, ils nous ont soutenus dès le début et sans hésitation.
Eh bien, c'est vraiment canon. On se donne rendez-vous donc le samedi 28 mars prochain au château de Flaugergues, en présence d'Anne, de Christine et de la petite trentaine de vignerons venus des quatre coins de la France. Merci beaucoup, Anne, en tout cas, pour ton métier. Et puis, on te souhaite bonne chance et on se donne rendez-vous au samedi 28 mars. Merci
avec
à toi.
Avec plaisir. Merci, Willy.
Salut.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, parce que t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.